l'invité de Radio Pont.
Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pont. Moi, je suis ravi parce qu'aujourd'hui, on est dans le deuxième studio de la radio. Une petite déco un peu particulière parce qu'on reçoit, on a le plaisir et l'honneur de recevoir des célébrités, voilà, des gens du spectacle, du cinéma. On a déjà eu par téléphone il y a quelques temps Guillaume de Tonquédec. Et il est là, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, merci de nous faire l'honneur de votre présence là dans le studio.
Merci de nous recevoir, c'est super.
Nous avons aussi Éric Besnard, le réalisateur, le scénariste, dialoguiste et réalisateur du film L'Esprit de Famille, bonjour.
Bonjour.
Et merci.
Merci à vous de nous recevoir.
Clémence Biche est aussi ici, voilà. De Apollo Film.
Exactement, de la société de distribution du film L'Esprit de Famille, qu'on sort le 29 janvier, à la fin du mois. Voilà. Et donc on organise aussi toute une tournée d'avant-première avec l'équipe, et du coup, nous voilà, tous les trois aujourd'hui, et donc on est ravis d'être ici aussi, de pas uniquement toucher les grandes villes, mais d'être aussi dans les zones où certains distributeurs viendraient peut-être moins naturellement.
Oui,
donc
naturellement,
voilà.
Ouais.
Donc du coup, on est ravis d'être là. Exactement. Mais d'être là avec une équipe, c'est en tous les cas assez chouette de pouvoir être aujourd'hui dans une radio libre. Voilà, ça arrive vraiment pas tous les jours en tournée, donc je suis hyper contente en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup de nous faire cet honneur-là. On va signaler aussi la présence de Philippe Allaire. Salut Philippe, t'as pas de micro, on va t'en passer.
Salut Fabrice.
Merci à toi d'être aussi un des organisateurs de cette rencontre-là,
bah, et
de
la projection. On est tellement bien reçus ici qu'à chaque fois je suis obligé de passer par là. Quoi.
Merci à toi. Pour m'accompagner, il y a Fred. Salut Fred.
Salut à tous. Ben, moi je suis très 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 content, un peu ému d'avoir en face de moi des célébrités, et peut-être, si vous me permettez, de toucher un petit doigt la célébrité.
Nous avons aussi à la technique notre collègue Luc. Merci Luc, il gère les micros. Alors je suis désolé, je ne veux pas traverser le studio pour te donner un micro. On a aussi Sylvie qui est là avec nous, qui s'occupe des invités, qui fera quelques photos. Donc si vous voyez des photos sur le site internet qui accompagnent le MP3 de cette interview, eh bien, ce sera celle de Sylvie. Merci Sylvie. Tony est aussi avec nous, un habitant pontois qui, sachant que vous veniez, nous a demandé s'il pouvait s'asseoir dans le studio et participer, enfin écouter au moins notre discussion.
Donc on a du public, c'est bien.
Et ça n'est que le début, parce qu'à 18h45, vous avez rendez-vous au cinéma de Pont, Le Vauban, pour lancer une avant-première.
Oui,
tout à fait. C'est bien, tu en as parlé de Clémence tout à l'heure un petit peu, de venir dans des petites villes, des petits cinémas, mais proposer quand même le film et de l'accompagner du scénariste, du réalisateur, des comédiens qui jouent dans le film. C'est important ?
Bah, c'est important pour nous d'être au contact du public, c'est-à-dire de savoir comment un film est reçu. C'est pas si fréquent. Au théâtre, vous avez la sanction immédiate. Au cinéma, c'est conceptuel. Donc aller dans des villes de tailles différentes, dans des endroits différents, dans des lieux de nature différents et rencontrer des publics, c'est une chance. Donc on est très très heureux de non seulement d'être là, mais de faire ce petit tour de France.
Eh oui. Voilà. Je pense que le public aussi est en demande de ça, de rencontrer, que les gens n'apparaissent pas que sur une affiche ou sur un écran, mais qu'à un moment donné, effectivement, il y a un rapport, que les gens puissent vous poser des questions, vous donner leurs
impressions.
Vous pourrez
tous nous toucher à 18h45.
c'est le principe du débat aussi. C'est non seulement entendre, mais débattre, poser des questions, répondre, entrer dans un rapport...
Humain,
aussi simplement que ça, c'est un dialogue. Et c'est très agréable. C'est très agréable aussi quand vous écrivez quelque chose qui est toujours plus ou moins personnel, en tout cas ça part de vous, et puis d'un seul coup vous découvrez que ça a une incidence universelle, en tout cas que les gens, chacun le perçoit comme il, en fonction de son vécu, et il y a des dimensions, dans ce film-là en particulier, il y a une typologie d'événements qu'on vit tous dans la vie, donc c'est intéressant de voir en quoi ça peut faire écho chez les gens et la typologie de réaction que ça génère.
C'est vrai que pour parler de ce film que vous avez écrit, il a quelque chose d'autobiographique, d'une certaine manière, parce qu'il est lié à un élément...
Oui, il, est oui, il y a des éléments, mais ce n'est pas autobiographique au sens où, narrativement, ce n'est pas autobiographique, ce n'est pas ma vie, et le personnage, ce n'est pas moi. Maintenant, il y a au moins deux points communs évidents. Le début, c'est que c'est un personnage qui perd son père au début du film, et j'ai commencé à écrire, moi, pour transcender mon deuil, le deuil de mon père. Et, donc, voilà, un premier élément. Donc il y a une mise en abîme de ma situation dans le récit. Et le deuxième élément, c'est que le personnage est un auteur, et ça m'intéressait parce que je voulais parler de la concurrence entre le réel et l'imaginaire quand on écrit, et ce qui est parfois difficile pour les proches, pour la famille. Donc ça m'intéressait de parler de ça, et du coup un auteur, bah, c'était plus légitime le postulat de comédie du film, qui est le fait qu'il continue à voir son père mort, parce qu'il n'accepte pas le deuil, et donc il, un peu à l'image de nous tous, je pense que quand on perd quelqu'un, on aurait envie de lui dire encore quelque chose, de partager les sensations du match de foot que vous avez vu à la télé, du bouquin que vous avez lu, ou d'une conversation, voilà, vous avez toujours envie de continuer à parler, et donc c'est pour répondre à cette absence qu'il génère une présence virtuelle qui est celle de son père, voilà.
Qui est virtuelle, mais active.
Mais oui, active, et puis cinématographiquement, c'est, l'acteur réapparaît, puisque c'est François Berléand, et que Guillaume est le seul à le voir. Donc, bien entendu, même si vous réglez vos comptes avec votre père, même si vous parlez avec lui, si vous êtes le seul à le voir, ça génère des quiproquos, puisque tous les autres personnages ne le voient pas, et donc ont tendance à le prendre pour un fou. Comme c'est un auteur, c'est d'autant plus facile de le prendre pour un fou, comme s'il parlait à ses personnages.
Très bien. Incarner le réalisateur du film, est-ce que c'est compliqué, Guillaume, de ton Québec ?
C'est compliqué, c'est-à-dire que c'est un vrai enjeu, surtout pour raconter cette histoire-là. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en face de quelqu'un à qui c'est arrivé et vous comprenez qu'il va falloir porter le sac à dos. J'aime bien ce verbe de porter parce que c'est vrai que c'est une responsabilité, comme je le disais. Il faut pas le trahir. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, j'avais refusé le film, non pas parce que j'avais peur de ça, mais parce que Eric voulait que ce soit un hommage qui soit à la fois émouvant et drôle, qui est la balance permanente entre les deux, comme dans les comédies à l'anglaise, qu'on adore tous les deux, je crois qu'on n'est pas les seuls, où l'émotion est toujours présente sous le rire et inversement. Et dans la première version d'Eric, qu'il m'a donné à lire alors qu'on ne se connaissait pas, l'émotion était très très présente, très bouleversante, mais je ne voyais pas bien le contrepoint de comédie, et je l'ai dit, je ne suis pas l'acteur qu'il vous faut, parce que je ne vois pas ce que je peux apporter comme comédie dans la version telle qu'elle est là. Donc je vous trahirai, si vous me prenez, je vous trahirai, parce que je ne sais pas comment travailler, en fait. Et quelques temps après, il avait retravaillé, et il a eu la politesse... Le bon goût aussi, on peut le dire. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, la politesse de me le reproposer. Alors, ce n'était du tout évident, parce qu'il pouvait se vexer. Et comme scénariste et comme être humain, ça fait quand même deux raisons. Et là, quand j'ai lu, peut-être du temps était passé, peut-être Eric aussi avait évolué par rapport à son point de vue, comment raconter l'histoire, en tout cas. Et là, moi, j'ai trouvé les deux éléments, et la comédie et l'émotion, qui était toujours là, bien sûr. Et l'émotion ne peut être qu'augmentée par la comédie, et inversement. Plus c'est drôle, plus c'est émouvant, et plus c'est émouvant, plus c'est drôle. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et là, je lui ai dit, là, je comprends, donc on y va, quoi. Ce qui fait qu'il y avait déjà eu... On avait pas mal de longueurs d'avance, en fait, tous les deux, sur le film et sur notre futur travail, quand on est arrivé le premier jour de tournage, parce qu'on savait très bien pourquoi on était là, et l'un et l'autre. Voilà.
Vous avez mesuré bien l'ampleur de la chose.
Oh, oui, c'est un lien de confiance qui s'établit. C'est une relation humaine. Surtout dans ce genre de film, vous parliez de film autobiographique. Comme je vous disais, il n'est pas autobiographique. Et le problème de ce genre de film, à partir du moment où vous voulez rendre hommage à votre père, dit les choses très simplement. Si vous êtes trop proche du réel, ça va être assez ennuyeux. Et puis, ça va pas obligatoirement intéresser les gens. En tout cas, moi, je suis pas là pour parler de mon nombril. Et puis, si vous êtes trop loin, est-ce que l'hommage a encore un sens? Est-ce que c'est pas une trahison? Donc, le problème de la distance est essentiel. Votre distance au sujet, quelle est la manière de transcrire cinématographiquement des ressentis que vous avez eus et, ou des choses que vous avez envie de dire? Et à commencer par le plus important dans ce film, qui est la pulsion de vie doit primer sur Thanatos. C'est-à-dire, d'un seul coup, il faut vivre, il faut croquer dans la vie. Et donc, quand on se rend compte et qu'il me dit, en gros, même si ce ne sont pas les mots de Guillaume immédiatement, vous n'êtes pas à la bonne distance de votre sujet, en fait, je pense. Ça me bouscule, ce n'est pas agréable, mais quand je rentre chez moi, je me dis, ce monsieur que je ne connais pas, il n'a certainement pas tort. Donc, je ressors mon stylo, je travaille, je réfléchis. Et puis, non seulement Guillaume de Tonquédec, mais aussi le temps m'aide. C'est-à-dire que plus je remets les choses en perspective, plus je suis capable de réinjecter de l'humour, de trouver justement, de faire ce que j'essaye de vouloir faire dans le film, c'est-à-dire d'avoir de la vie partout. voilà. Et donc, quand je reviens le voir avec le nouveau script et qu'il me dit oui, j'ai face à moi quelqu'un qui m'a aidé à avancer, que je ne connaissais pas, mais qui m'a aidé à avancer. Et moi, de mon côté, je lui ai montré que je l'entendais. C'est une bonne base pour faire un bon chemin ensemble.
Pour une bonne collaboration.
Voilà. Donc,
parce que c'est vrai qu'autant vous ne connaissiez pas préalablement Guillaume de Tonquédec, autant les autres comédiens, je pense notamment à M. Berléand et à Mme Balasco, vous aviez déjà travaillé avec eux et vous aviez déjà même prévisualisé.
On va dire que tous les autres comédiens, je les connaissais. Je n'avais pas travaillé avec tous, mais je les connaissais tous. Contrairement à Guillaume, que je n'avais jamais rencontré. François, je vais jusqu'à dire que c'est un ami dans la vie, donc j'ai écrit en pensant à lui. Pour plein de raisons, d'abord parce qu'il connaissait mon père, j'ai fait plein de films avec lui, des courts-métrages, il y en a qu'on a fait, il y en a qu'on n'a pas fait, mais on s'est croisé sur plein d'aventures à titre divers, et c'est un homme que j'aime dans la vie, et je voulais absolument que ce soit lui qui incarne ce rôle-là. C'était même pas négociable dans ma tête. Voilà. Josiane, j'ai fait un autre film avec elle il y a quelques années qui s'appelle Mes héros, où elle jouait déjà la mère du héros. Et l'idée de lui proposer une autre mère complètement différente de la première fois, je trouvais que, voilà. Et je n'exclus pas l'idée de le refaire une fois dans ma vie. Comme ça, qu'il joue plusieurs fois la mère du héros, avec des personnages très différents les uns des autres, même graphiquement. C'est pour ça que là, c'est un personnage qui est borgne, qui a un look de western avec un chapeau, un Stetson, et quasiment un cheval sans tout dévoiler. donc, c'est comme ça de créer une ligne graphique au personnage. Et les autres acteurs, Isabelle Carré, Jérémy Lopez, Marie-Julie Beau, je les avais rencontrés sur des films qui ne se sont pas obligatoirement faits, mais j'avais eu des projets avec. Donc, en effet, vous avancez.
Il y a un lien de
désir. Vous avez déjà montré que vous aviez envie de travailler avec eux. Ils vous ont montré qu'ils avaient envie. Donc, à partir de là, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà.
Et c'était la bonne occasion.
C'était la bonne occasion, exactement.
Cette famille vous a permis... Bien.
En plus, le film s'appelle L'Esprit de Famille. C'est un film qui est construit sur la famille, avec un groupe dans une maison, comme le temps d'un week-end, un peu comme tout ce qui peut arriver dans une famille un week-end. Donc, vous créez un lien fort quand ça se passe bien. À tel point d'ailleurs que depuis, on a refait un film ensemble déjà. Donc voilà, vous dire que ça crée des liens. Et c'est pas de la facilité, c'est juste, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous l'admirez, que c'est un compagnon de route agréable, vous avez envie aussi de l'emmener ailleurs. Quand moi, mon métier, c'est la page blanche, je dis, tiens, si j'emmenais cet acteur-là. Là, Berléand, c'est ce qui se passe sur ce film-là. Berléand, c'est un acteur qui a une image cynique, souvent, dans la vie. D'acteur cynique, en tout cas, qui est toujours...
Voilà, ce des rôles assez,
exactement. Assez et moi, c'est un humaniste, c'est un, dans la vie, c'est un homme qui est un jouisseur. Je voulais aller chercher ça. Et le montrer à l'image. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Donc, plus vous connaissez les gens, plus vous avez envie d'aller gratter quelque chose d'eux. Voilà. Un jour, Guillaume de Tonkadec fera un méchant à l'écran.
J'adorerais.
Voilà.
Un truc pas drôle du tout.
Voilà. Non, mais voilà. Et ce sera parce qu'un metteur en scène l'aura projeté ça et aura envie de l'emmener là.
C'est un double travail que vous avez eu. Donc, le travail d'écriture et de coller ce texte à des personnages, mais aussi après la mise en scène réelle et justement d'emmener les acteurs vers justement des positionnements qui sont pas forcément les plus faciles pour eux.
Oui, oui, mais ça c'est leur métier.
Mais c'est leur boulot.
Voilà, c'est il y a l'alchimie aussi de la rencontre d'acteurs qui viennent d'horizons différents et qui et alors la chance sur ce film-là, si tant est qu'on puisse parler de chance, ce ne sont que des acteurs de théâtre, donc avec une culture du texte, du travail de la troupe particulier, très fort. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils se soient tous très bien entendus. Et donc à partir de là, vous créez une alchimie qui est aussi et avant tout qui s'appuie avant tout sur l'admiration réciproque.
Le tout dans un lieu magnifique, une grande maison en Bretagne, des décors.
La maison est très importante parce que c'est le foyer, c'est là où on se retrouve. Et comme le dit Eric, c'était important de trouver une maison qui soit dans un bel endroit parce que Eric attache beaucoup d'importance à la nature, à ce qui se passe autour de lui, les éléments qui se passent autour de nous. Et il fallait que la maison soit non seulement le lieu de rencontre, mais aussi qu'elle apparaisse trop grande, certainement pour une femme seule tout d'un coup et de façon plus imprévisible, puisque le personnage de François, joué par François, disparaît de façon brutale. Donc rien n'était préparé dans la famille et que le père avait une place très importante. Donc comment les équilibres se redistribuent et qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Est-ce que maman seule peut rester dans la maison? Comment ça se passe, quoi? Voilà.
Les vies aussi, hein, des uns et des autres, qui viennent se retélescoper à cet endroit-là, sur une période bien, bien particulière, mais où du coup on mesure les écarts qu'il peut y avoir, même à l'intérieur d'une fratrie entre deux frères, les parcours de vie tellement différents, les points de vue tellement différents, les modes de vie, et tout ça vient se percuter à l'occasion d'un événement tragique, mais...
Oui, parce qu'une famille, c'est comme un mobile, c'est des points d'équilibre. Si vous enlevez la clé de voûte, en l'occurrence le pater familias, et ça redistribue toutes les cartes. Donc il faut que chacun retrouve sa position. Et l'un des sens du film, c'est que chacun qui est enfermé un peu dans une bulle, parce que notre vie moderne fait que tout va vite et chacun essaye d'avancer et en oubliant un petit peu, on va dire, l'immanence du rapport à l'autre. Cette occasion, c'est peut-être aussi l'occasion de se retrouver, de se redécouvrir les uns des autres, de se dire je t'aime, de se faire rire, voilà. Donc le paradoxe, c'est que ce drame redistribue les cartes et il s'agit d'en profiter pour bien les jouer.
Ça redéfinit un peu l'échelle des priorités.
Exactement.
De chacun.
Exactement. Si vous ne redéfinissez pas l'échelle des priorités à ces moments-là, vous le ferez jamais. Voilà, il n'y a pas pire traumatisme que la mort d'un proche. Donc ce sont les moments où il faut se poser la question si on est sur la bonne route, si le temps qui vous est imparti, qui ne va pas être si long que ça, vous l'utilisez à bon escient ou pas. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est la chose la plus rare que nous ayons, le temps.
Waouh. Moi, je suis un peu frustré parce que j'avais préparé plein de questions et puis vous êtes tellement brillant que vous avez déjà répondu à tout. Donc, je sais plus quoi trop dire, si ce n'est mon impression sur le film. Je vais vous avouer que lorsqu'il y a ce drame-là, le père qui décède assez brutalement, ça m'a happé, ça m'a renvoyé à ma propre histoire. Et j'ai failli partir. Je me suis dit, wow, c'est trop fort. Ensuite, il y a le crématorium ou encore... Et ensuite, il y a cette légèreté, cette magie, parce qu'il y a de la magie dans le film, je trouve, et cet humour. Et j'ai bien fait de rester, en fait.
Merci. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans le film d'Eric, il a atteint une valeur universelle, en fait. Comme il le dit, ce n'est pas un film autobiographique, parce que regarder son nombril,
ça l'est
pas forcément intéressant. Ça part d'un fait personnel, bien sûr, mais ça s'ouvre et ça touche en effet tout le monde, parce que tout le monde a une famille, et ce n'est pas forcément un endroit toujours rêvé, la famille. Ça peut être compliqué ou conflictuel, comme on le voit dans le film. Et puis ça peut être aussi un endroit de partage, mais enfin il y a tout ça, quoi. Comme dit l'autre, on choisit ses amis mais pas sa famille, on l'a pour la vie, quoi. Alors comment on fait, comment on s'organise avec tout ça, comment on vit à l'intérieur de ça. Et puis le fait que moi je trouve qu'il y a dans la proposition d'Eric quelque chose de, il y a vraiment un... enfin quelque chose qui est très porteur d'espoir pour moi. Cette très chose, c'est une très belle, simple et forte idée de dire tiens, mais si je prolongeais un peu le dialogue encore un instant, monsieur le bourreau, comme dit Eric souvent, encore quelques heures, quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas quelques mois, pour prolonger le dialogue avec celui qui n'est plus là. Et Eric dit aussi une chose que je trouve très belle, c'est qu'on se trouve à la disparition de l'autre, augmenté de lui, c'est-à-dire qu'on devient le témoin de celui qui n'est plus là, puisqu'on est le garant de ses idées, de son humour, de son passé. Donc qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Est-ce qu'on peut le... Donc voilà, de le retrouver, de pouvoir prolonger, je trouve que c'est une très jolie idée, et qu'en plus... dans l'histoire, ça transforme tous les personnages. Celui que je joue, bien sûr, parce qu'il va faire un chemin vers les autres grâce à cet événement et à cette invention incroyable du fantôme de son papa. Et puis, la famille va se retrouver, se ressouder là où elle était peut-être un peu fragile ou fragilisée et puis en conflit. Le conflit, on le devine, des éléments resteront, mais il y a de tels pas qui sont accomplis que c'est, pour toutes ces raisons-là, c'est un film aussi sur l'espoir, quoi. Qui fait que, moi qui ai la chance d'avoir encore mes parents, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu le film, c'est que je les ai appelés, quoi. Juste pour leur dire, ça va, vous allez bien, je vous aime. Voilà, c'est tout, bah, à bientôt. Puisqu'ils n'habitent pas près de chez moi, ils habitent assez loin géographiquement. Et je trouve que ça fait du bien, quoi. Et pour citer encore Eric, c'est vrai que ça justifie, ça légitime peut-être notre façon de... Enfin, le choix qu'on a fait de nos métiers, de pouvoir délivrer comme ça des messages, quoi. Donc quand on a affaire à un auteur qui réussit à faire passer ça, c'est une chance, voilà.
Ce que je peux juste redire, c'est que c'est un film hédoniste. C'est un film sur le goût de la vie. Et le paradoxe, on va dire conceptuel du film, c'est que c'est un mort, une image mentale. C'est pas un fantôme, c'est le symptôme du deuil. Vous continuez à faire apparaître quelqu'un qui n'est plus parce que vous avez encore envie de lui parler. Bah, ce fantôme, ce symptôme, ce personnage, ce Jiminy Cricket, dit aux vivants, ça dure pas longtemps, croquez la vie. Et faites-le ensemble, parce que la solution est collective. Vous êtes chacun enfermé dans votre deuil, parce que le deuil, c'est un isolement, mais on n'est pas tout seul en deuil. Toute personne qui connaissait cette personne est en deuil. Donc il s'agit de se rappeler que c'est pas un prétexte à se renfermer sur soi-même. Il s'agit au contraire de l'utiliser pour aller à la rencontre de l'autre et se reposer certaines questions. Donc c'est avant tout un film qui se veut jubilatoire, au sens... voilà, on croque dedans, ça dure pas longtemps. Allons-y, les enfants.
Amusons-nous. Et amusons-nous ensemble.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment. On a un timing qui est évidemment un petit peu serré aussi, hein, parce que justement, vous allez aller rencontrer les Pontois. Vous allez passer dans quelques salles de cinéma et pouvoir accompagner ce film, le présenter, en parler aux spectateurs. Et nous, en tout cas, on a été... ravi et voilà et honoré de pouvoir vous recevoir de parler de ces, parce que effectivement comment un sujet compliqué enfin une approche difficile en fait avec ce yo-yo émotionnel entre les moments tendus et crispés puis les moments où effectivement la joie, le bonheur et la jouissance prennent la place et ben ça voilà, c'est un film qui fait du bien.
Tant mieux.
Merci à vous.
Merci.
Et merci pour la galette, même si je n'ai pas eu la fève.
On prend une seconde part. Donc, merci Clémence. Merci Eric Bénard. Merci Guillaume de Tonquédec. Merci Philippe. Merci les collègues. Ouais. Et puis donc les auditeurs, on vous invite à aller voir. Donc si ce n'est pas à Pont, parce qu'on diffusera l'interview après le passage à Pont. Mais en tout cas, la sortie, c'est à partir du 29 janvier. Dans toutes les bonnes salles de cinéma, il y aura le film L'Esprit de Famille. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.